à Monsieur Jérôme Cartier, Burlingham, San Francisco, États-Unis. Hôtel Manfred, rue Lord Byron, Paris, le 26 décembre. Mon cher Jérôme, oh, vous allez vous moquer de moi en recevant cette lettre. Oui, je suis toujours à l'hôtel Manfred. J'y occupe une chambre où j'ai à peine la place de me retourner à cause des malles qui l'encombrent, car je n'ai pas encore retenu l'appartement dont je vous parlais. Ne croyez pas pourtant que mon séjour prolongé dans ce familier hôtel ait quelque raison sentimentale, pour ne pas dire plus. Ne supposez pas que je suive l'exemple de mon amie Madeleine et que je sois éprise de quelque Adonis de table d'hôte. Non, mon cher Jérôme, rien de tout cela ne m'est arrivé. Et si mon cœur a battu, ce n'est pas pour quelque beau cavalier. C'est Paris qui est le coupable. Il a bien des charmes, et ce sont eux qui m'ont occupé jusqu'à présent. Oui, mon cher ami, depuis plus d'un mois que je suis ici, je suis en coquetterie avec Paris, et j'avoue que je suis ravi de ce flirt. Ne vous en étonnez pas trop. Sans nous connaître, Paris et moi étions déjà de vieux amis. Bien souvent, quand vous étiez à votre office de Market Street et que je demeurais seul à Burlingame, je sortais de la bibliothèque le plan de ce Paris qui était pour moi une ville à demi fabuleuse. Je l'étalais sous mes yeux et je le regardais longtemps. Du doigt, je suivais ses rues principales, ses avenues, ses boulevards. Je m'arrêtais aux places. Je cherchais ses monuments les plus fameux, parmi lesquels je comprenais naturellement les grands magasins. Que de promenades j'ai faites dans ce Paris lointain et pour moi presque chimérique, dont je ne connaissais guère que l'enclos du couvent de Sainte-Dorothée. Y pouvoir errer librement, sans guide, sans contrainte, à ma guise et au gré de mon caprice, m'arrêtant où je voudrais, oh, cela me paraissait une véritable perspective de paradis. Eh bien, ce rêve, je le réalise depuis plus d'un mois, et cette réalité est un enchantement. Vous allez me trouver bien ridicule, Jérôme. Mais vous, Paris, vous le connaissez, il vous est familier, vous y avez passé votre jeunesse, vous y avez vécu, et quand vous êtes fixé en Amérique pour vos affaires, d'abord provisoirement, ensuite d'une façon définitive, vous en avez emporté des images variées. Paris a satisfait vos curiosités, mais moi, pensez donc que Paris était resté pour moi un rêve de pensionnaire, un domaine inaccessible que je n'avais aperçu qu'à travers une grille. Quand nous nous sommes mariés, j'espérais que Paris s'éclairerait pour moi des rayons de notre lune de miel. Mais au lieu de cela, vous m'avez jeté dans un paquebot et emporté là-bas, comme objet conquis. Et des années ont passé, et lorsque je songeais à Paris, je me disais, « Oh, Paris, quand je te verrai, oh, je serai sans doute une vieille dame. Il aurait été pourtant amusant de fouler tes trottoirs d'un pas encore alerte, de rôder dans tes rues avec une jeune allure de promeneuse, de refléter dans tes vitrines un joli visage, d'être encore à l'âge d'être regardé, suivi. Car voyez-vous, mon cher Jérôme, en Amérique, ce sont toujours ces plaisirs de la rue qui nous manqueront à nous, Françaises, même Françaises honnêtes. Ce seront ces regards croisés, ces petits hommages d'admiration accueillis au passage durant les flâneries. Être une jeune et jolie femme dans la rue à Paris, il y a cela un agrément particulier que l'on ne rencontre nulle part ailleurs. Se promener par un beau jour froid d'hiver, le long des magasins élégants de la rue de la Paix et des boulevards, à l'heure où le gaz s'allume, où l'électricité brille aux devantures, au milieu d'une foule sympathique, est une impression délicieuse qu'il faut avoir éprouvée. Certes, oui, en Amérique, il y a bien des rues et des avenues, des boutiques et des magasins. Il y a des passants, mais il n'y a pas de flâneurs. Oh, la flânerie, mon cher Jérôme, quelle merveilleuse invention! Je viens de passer un grand mois à ne guère faire autre chose que flâner. Eh bien, je ne me suis jamais autant amusé. Oui, chaque matin, pendant un mois, je me suis habillé pour Paris. C'était pour Paris que je me poudrais les nez, que je me faisais les ongles, que je me parfumais. Chaque matin, pour lui, je mettais mes plus beaux souliers, ma robe la mieux saillante, mon chapeau de plus coquet. Et de quels pas alertes je descendais l'escalier. C'était vers Paris que je courais. Brusquement, je me trouvais face à face avec lui. Son odeur m'emplissait les narines, son bruit m'emplissait les oreilles, son aspect me sautait aux yeux, et joyeuse, rapide, enivrée, je partais en reconnaissance à travers la vaste ville. Vous pensez bien qu'à ces promenades quotidiennes, je n'ai mis nul ordre et nulle méthode. Je n'ai pas visité Paris à la manière de nos Américaines. Elles le divisent en tranches ainsi qu'un gâteau, et avalent gloutonnement chacune de ces tranches. Elles absorbent ainsi chaque jour un certain nombre d'églises, de musées, de monuments et autres curiosités. Vous ne me voyez pas, je suppose, me comportant de cette façon. Non, ce que je voulais, c'était me familiariser avec les lieux où j'allais vivre désormais. Et le meilleur moyen m'a paru de m'en remettre au hasard, ou plutôt de me confier aux caprices du gentil dieu de la flânerie. Et j'ai bien eu raison d'agir ainsi. Il n'y a pas de meilleur guide dans Paris que Paris lui-même. Que de surprises il nous ménage, que de choses admirables il nous montre et que j'aime déjà passionnément. Ses quais merveilleux, ses fastueux Champs-Élysées, son Luxembourg, sa place Vendôme et Montmartre. Oh, j'y suis monté par un beau matin, frais et clair. Ce fut une de mes premières promenades. De là, Paris entier m'est apparu, vague, mystérieux, énorme, précis. C'était donc cela, ce Paris où j'allais enfin vivre, qui allait m'offrir librement toutes ses joies, grandes et petites. Ah, Jérôme, pensez donc, contemplez à son gré le souvenir de la Joconde ou le chic des matelas de la rue de la Paix. Si beau et si séduisant que m'est paru Montmartre, ce n'est pas là, cependant, que j'habiterai. Je ne suis ni une bohème, ni une artiste. Je suis une petite dame très convenable à qui il faut un logis paisible et commode. Aussi est-ce peut-être dans les bons vieux quartiers de la rive gauche que je chercherai. Pour le moment, je n'ai rien décidé encore. Je suis encore tout entière au genre de vie que je vous décris. Il a bien des charmes, mais bientôt je me rangerai et je me conduirai comme une personne pleine de dignité, soucieuse de considération. De tout ce que je vous raconte, j'aurai grand soin de ne rien dire aux quelques vieilles dames que je connais ici et auxquelles il faudra que je fasse accepter ma nouvelle situation. C'est pourquoi, dans quelque temps, je saurai me résoudre à cesser mon vagabondage et à consacrer quelques heures de ma journée aux visites nécessaires. Jusqu'à présent, je le confesse, je n'ai pas eu le courage de m'astreindre à ces formalités. J'étais trop amoureuse de Paris pour m'occuper de régulariser mon union avec lui. Pourtant, j'ai fait un premier pas dans ce sens, car avant-hier, je suis allé voir ma respectable tante de Brégin à Sainte-Dorothée. Je n'ai pas du reste à accomplir cet exploit sans quelques précautions préalables. J'ai pris tout d'abord celle de faire précéder ma venue par une lettre fort respectueuse, suffisamment détaillée et des plus modestes, et je crois assez bien tournée. J'y exposais à ma tante, dans un langage sans détour et sans forfanterie, l'important événement qui avait eu lieu dans mon existence. J'en retraçais les circonstances avec naturel, mais aussi avec une certaine réserve et avec toutes les bienséances possibles. En finissant, je laissais entendre discrètement que j'attendrais, pour me présenter au parloir, que l'on me manifestât le désir de m'y voir paraître. Je tenais avant tout à ne pas m'y rendre comme une intruse, ni comme une coupable. Ce qu'il est peut-être, c'est de rire encore comme je le fais, en pensant au désarroi que ma lettre a dû jeter parmi les excellentes mères de Sainte-Dorothée. De quels commentaires, de quelles discussions a-t-elle dû être l'objet? Pensez donc, mon pauvre ami, pour ces braves dames. Je suis en somme une brebis galeuse, une malheureuse dévoyée, une âme perdue. Quoi, une ancienne élève du couvent de Sainte-Dorothée, être maintenant une divorcée? Oh, n'est-ce point affreux? Quel scandale! Que de fois, à cette honte de famille, ma pauvre bonne tante n'a-t-elle pas dû lever les yeux au ciel par-dessus ses lunettes? N'était-ce pas elle qui, en me faisant recevoir pensionnaire à Sainte-Dorothée, avait infligé ce déshonneur à la communauté? Oh, les beaux conciliabules que tout cela avait dû produire sur la conduite à tenir avec moi! Aussi, je ne vous cacherai pas que la réponse à ma lettre se fit quelque peu attendre. Elle vint, cependant. Elle était un modèle de prudence et d'ambiguïté. Le point principal, naturellement, n'y était pas traité. Néanmoins, après des préambules infinis et nombre de considérations générales, j'y étais invité à venir voir ma tante au parloir. Pour m'y rendre, je fis une toilette qui était un chef-d'œuvre de bon goût. Cela tenait le milieu entre la veuve et la jeune fille, avec un rien de la dame d'un certain âge. J'avais loué pour l'occasion, au lieu d'un humble fiacre, un bon coupé à un cheval. À l'heure dite, ce véhicule confortable et modeste s'arrêtait devant la porte du couvent de Sainte-Dorothée. Je pris grand soin de mettre la semelle au marchepied avec une large lenteur, sous l'œil observateur de la sœur Tourière, qui me considérait curieusement, et à laquelle j'adressais le petit bonjour d'usage. Puis je traversais posément la grande cour d'allée. À la porterie, je fis mon billet. De là, on me conduisit au grand parloir. Il était vide et je vous avoue que je préférais qu'il en fût ainsi, car je n'ai pas revu, sans quelque émotion, les boiseries et les fauteuils de repas verts qui ornent cette vaste pièce. À ces souvenirs du passé, se joignit, mon cher Jérôme, une rapide pensée à votre adresse. C'était là que vous m'aviez fait l'honneur de me remarquer, mais je n'eus pas le loisir de m'attendrir longtemps. Un bruit lointain sur le parquet ciré, je reconnus le pas traînant de ma tante de Béréguin, en religion mère Sainte Véronique. Je me levai, j'allai au-devant d'elle. Le moment était délicat. Il me fallait mettre dans cette avance ni trop d'empressement, ni trop de lenteur. La mère Véronique est attentive aux plus petites choses et, comme elle est d'esprit subtil et médiocre, elle en tire des déductions infinies. Malgré cette prévenance, l'accueil, oh, comme je m'y attendais, fut plutôt froid. Oh, je n'en accusais pas ma pauvre tante. Elle avait reçu certainement des instructions à cet égard, et elle était trop bonne religieuse pour faire autrement que de s'y conformer. Sa réserve commandée était parfaitement explicable. J'étais, en somme, je vous le répète, j'étais le déshonneur du couvent. Mon cas était sans excuse. Songez donc, une petite fille qui, grâce à la parfaite éducation reçue à Sainte-Dorothée, qui, grâce au renom mondial de cette pieuse maison, avait eu la chance remarquable d'être épousée sans dot et qui, au bout de 5 ans de mariage, vous revenez d'Amérique divorcée et divorcée, ce qui pisait, sans tort grave de l'époux. Oh, cette nuance et plusieurs autres, ma tante me les faisait sentir dès l'abord, par la façon même dont elle semblait se tenir à distance de moi. Ne doit-on pas montrer une juste sévérité envers une personne qui non seulement a compromis sa situation mondaine, mais encore, sans doute, sa situation matérielle, car enfin, qu'allais-je devenir maintenant ? Oh, sur ce dernier point, je pus rassurer aisément la mère Véronique, et ce fut par ce sujet que notre conversation commença. Ma tante parut fort satisfaite des assurances que je lui donnais. Elle poussa un soupir de soulagement, comme si je lui enlevais un grand poids de dessus la poitrine. Après quoi, elle croisa les mains sur son petit ventre rond et me considéra avec une certaine bienveillance. Évidemment, j'étais toujours une divorcée, en dehors maintenant du giron de l'Église, mais je n'étais pas une divorcée pauvre. Il y a là, même pour les dames moins pieuses, une petite différence, et ma tante n'y était pas insensible. Malgré tout ce qu'il y avait à dire, je m'apercevais bien que je ne produisais pas sur elle une trop mauvaise impression. Ma tenue et mon habillement ont prouvé que je n'avais pas entièrement perdu mes qualités si françaises de décence et de tact. Ma tante sans doute s'attendait à me voir vêtue d'une de ces toilettes tapageuses, comme en arborent trop souvent les mamans de petites élèves américaines à leur visite transatlantique au parloir de Sainte-Dorothée. Au lieu de cela, j'étais vécu avec goût et simplicité. Quel dommage que je fusse divorcé. Sûrement la mère Véronique pensait qu'il était bien regrettable qu'un veuvage opportun ne m'eût évité la sottise que j'avais commise. Hélas, mon cher Jérôme, la mère Véronique vous eût sacrifié bien volontiers aux intérêts de la religion et de la morale. Ces préliminaires échangés entre ma tante et moi, je vis bien vite où elle en voulait venir. Un second point la préoccupait. Avais-je ou non l'intention de me remarier? Ma tante tenait beaucoup à être fixée à ce sujet. Certes, le divorce est toujours une grave atteinte aux lois divines, mais cependant il y a divorce et divorce, et une séparation, même voilée sous le prétexte de convenances mutuelles et de consentement réciproque, peut cacher certaines excuses. Les hommes sont si fourbes, si brutaux. Les bonnes mères, bien que les connaissant assez mal par elles-mêmes, n'ont pas pour eux grande estime. Les pauvres femmes ont parfois bien à souffrir, et le mariage n'est pas toujours un paradis. Il y a donc des cas où les torts d'une divorcée s'atténuent singulièrement, et on les lui peut presque pardonner. Seul demeure inexcusable le cas de remariage. Là, le scandale s'ajoute au scandale. Une divorcée qui se remarie, risque de perpétuer son péché, de lui donner une postérité. De nouveau, je pus rassurer la mère Véronique et la rassurer avec sincérité. Elle parut tout d'abord fort contente de ma déclaration, puis peu à peu, elle se rembrunit. Pour la première fois, depuis le commencement de notre conversation, elle examinait avec soin ma figure. Elle me considérait même avec une insistance presque gênante. Et que découvrait-elle tout à coup sur mon visage? Portais-je donc au front le signe des réprouvés? À la grimace de la bonne dame, je pouvais croire à tout loin que j'avais terriblement laidi depuis le temps où les papas d'élèves me lorgnaient au parloir. Mais non, ce n'était pas cela. Au contraire, ma pauvre tante regrettait du fond de son cœur que le Seigneur m'eût conservé quelques dons assez agréables. Qu'avais-je à faire maintenant de ces vains attraits, qui d'ailleurs n'avaient pas été d'une grande utilité puisqu'ils n'avaient pas réussi à faire que mon mari passât par-dessus mes imperfections morales et consentît à tous mes sacrifices, à tous mes caprices, afin de se conserver l'usage exclusif de ma beauté. À présent, surtout à quoi bon allait bien pouvoir servir que juste de beaux yeux, une bouche fraîche, une chevelure abondante? Ces avantages devenaient pour moi autant de dangers. Tout cela se lisait dans les regards méfiants de la mère Véronique. Je vous jure qu'elle eût été ravie que je fusse borgne, boiteuse ou chauve. Elle m'eût certes préféré cul-de-jatte à me voir comme je suis, car n'était-il point extrêmement probable que mes faibles appâts me vaudraient les compliments intéressés des hommes et leurs propositions déshonnêtes. Et rien ne prouvait que je ne me lassasse pas prendre à leur piège. Le cœur des femmes est sensible à ces éloges masculins, et la vanité qu'elles en tirent d'elles-mêmes leur peut conseiller bien des sottises. La tendre Véronique, en son fort intérieur, me faisait l'honneur de me croire capable des plus marqués. En réalité, ma brave tante craignait pour ma vertu et redoutait visiblement que je ne la susse pas conservée intacte. Quoi donc, alors, j'aurais des amants? Des amants? Elle pinçait les lèvres à cette pensée déshonorante. Cependant, elle n'osa pas me faire part de ses suppositions. À ce sujet encore, je fus sur le point de la rassurer, mais vraiment, je lui avais donné assez d'assurance pour une première visite, et je ne résistais pas au plaisir de laisser travailler un peu sa faible tête sur cette matière, et même de la taquiner méchamment en amenant dans la conversation le nom de Madeleine de Gersainville. J'avouais que je venais de passer justement 6 semaines chez elle, dans sa propriété d'Aiguéret. À ce nom et à cette nouvelle, ma tante fit la figure la plus comiquement dépitée qui se puisse voir. Quoi, à peine débarqué d'Amérique, me trouvant dans une situation qui m'imposait les ménagements les plus délicats, je fréquentais intimement une Madeleine de Gersainville. Oh, la mère Véronique était positivement à la torture. La charité lui interdisait de me révéler les folies amoureuses de Madeleine. Et la charité aussi lui commandait de me mettre en garde contre de si pernicieuses relations. Que devait-elle faire? La solution de ce problème n'avait pas été prévue dans les instructions que la mère Véronique avait dû recevoir en haut lieu. Cependant, comme je craignais que ma tante ne prit l'initiative de m'avertir du danger, et comme je ne voulais pas risquer d'écouter sur Madeleine des propos embarrassants, j'alléguai l'heure et demandai la permission de me retirer. Ma tante fut tout heureuse de la diversion que lui donnait le temps d'en référer à qui de droit. Quand nous nous quittâmes, elle me taponna affectueusement la joue en me disant « Allons, ma petite Laure, je suis contente de t'avoir vue. Reviens quelquefois écouter les conseils de ta vieille tante. » Et elle ajouta, « Cela vaudrait mieux que de te revoir Madeleine de Gersainville. On dit qu'elle est un peu coquette. » Madeleine un peu coquette. Ne trouvez-vous pas délicieux, mon cher Jérôme, l'euphémisme? Enfin, comme vous voyez, ma visite s'est fort bien passée. Si bien même que, quelques jours après, j'ai reçu une lettre de ma tante me demandant que la mère supérieure espérait que, malgré les difficultés de ma position, les bonnes relations ne cesseraient pas entre le couvent et moi. Elle ne doutait pas non plus que, l'occasion se présentant, je ne consentisse à m'associer à certaines œuvres patronnées par la communauté. Ces aimables paroles sont un indice que la lettre de quête n'est pas loin. Heureusement, mon cher Jérôme, votre libéralité m'a mis à même de satisfaire largement à ces menues obligations. Elle m'a permis aussi de m'offrir un petit bijou que j'avais vu rue de la Paix lors de l'une de mes premières promenades et auquel j'avais souvent pensé depuis. C'est un cœur formé de pierres sans valeur, mais délicieusement monté. Quand je l'ai suspendu à mon cou, il m'a semblé que Paris lui-même me l'offrait en signe de bienvenue. Ne vous offusquez pas de ces galanteries de la grande ville. Tant que je n'écouterai que celle-là, la mère Véronique peut dormir sur ses deux oreilles. À propos, à quand votre remariage? On dirait que vous me regrettez. Votre ami, Laure de Lérins. À Monsieur Jérôme Cartier, Burlingame, San Francisco, États-Unis. Hôtel Manfred, rue Lord Byron. Paris, 12 janvier. Mon cher Jérôme, oh, je suis très heureuse de la bonne nouvelle que m'apporte votre câblogramme. Vous voici donc enfin mariée, et l'aimable Miss Hardington doit être au comble de ses voeux. Songez donc, la voilà la femme de l'homme le plus élégant et le plus distingué de San Francisco. Car je peux bien vous le dire maintenant que vous n'êtes plus du tout mon mari et que vous êtes celui d'une autre. Jusqu'alors, en effet, bien que nous fussions légalement divorcés, il existait encore entre nous une espèce de lien qui me retenait de vous parler entièrement à cœur ouvert. Cela donnait à mes lettres quelque chose de factice et d'emprunté, que, je le sens, elles n'auront plus. À présent, il ne reste vraiment plus rien de notre passé commun qu'une franche et loyale camaraderie. Je pense que votre nouvelle femme ne s'en offensera pas. Elle est très intelligente et elle comprend le plaisir que je puis avoir à vous écrire. J'espère qu'elle considérera avoir en moi une amie sûre et dévouée. Je lui en ai déjà donné des preuves. J'y ajoute celle de me mettre à sa disposition pour le cas où elle voudrait me charger de quelques commissions de couturière ou de modiste. Nous sommes à peu près de la même taille et je pourrais très bien lui servir de mannequin. Transmettez-lui ma proposition. Quant à vous, mon cher Jérôme, je ne refuse pas non plus de vous envoyer d'ici les dernières créations du chapelier à la mode et du tailleur en renom. Mais cela n'a pas d'importance pour vous. Votre nouvelle femme vous adore et, fussiez-vous vêtu de défroques innommables et de guenilles sordides, elle ne vous en adorerait pas moins. Je suis ravi de la savoir en ses dispositions, car il est bien agréable pour un homme d'être éperdument aimé. Cela le dispense même d'être aimable, ce qui ne sera jamais votre cas. Cependant, comme je souhaite de tout cœur que le sentiment qu'Alicia a pour vous soit durable, laissez-moi vous présenter certaines petites réflexions que j'ai faites et qui sont presque des conseils. Vous avez de grandes qualités en amour, mon cher Jérôme, et je me plais à le reconnaître. Je mets à part, naturellement, celles sur lesquelles il serait de mauvais goût d'insister, mais qui ont bien tout de même leur prix. Outre donc ces qualités trop intimes pour en parler, vous en avez d'autres. Vous êtes franc, loyal, empressé. Oh, je pourrais grossir la liste, mais je m'arrête. Par contre, vous avez un défaut que je veux vous signaler, car il pourrait être un danger pour votre bonheur conjugal. Vous n'êtes pas attentif, Jérôme. Or, l'attention est une des choses dont les femmes sont le plus reconnaissantes et à laquelle elles sont le plus sensibles. Je ne veux pas parler, bien entendu, de cette attention qui est une des formes de la politesse et qui est désignée plus exactement par cette expression des attentions. Avoir des attentions pour une femme, c'est charmant, c'est gentil, et ce n'est pas inutile. C'est témoigner d'une galanterie naturelle qui a sa valeur et son mérite. Les femmes en savent gré aux hommes. Mais ces attentions qu'elles acceptent avec plaisir n'ont qu'un lointain rapport avec l'attention qu'elles exigent, même inconsciemment, de quiconque a part dans leur vie. Oui, Jérôme, il ne suffit pas avec une femme, avec sa femme, d'être attentionné, il faut être attentif. Par là, j'entends qu'il faut s'astreindre jour à jour, heure à heure, à la comprendre, chercher à se rendre compte de ses variations de caractère et de tempérament. Il faut l'observer minutieusement et lui donner l'impression qu'elle vit dans une atmosphère vigilante. Cette impression d'être comprise, entourée, soutenue, d'être environnée de soins intelligents et de celles auxquelles les femmes sont très sensibles. Cela leur donne un précieux réconfort de bien-être et de sécurité. Cela les aide à se sentir en communication avec qui les aime. C'est ainsi que se créent entre les amants, les époux, mille petits liens délicats, indissolubles, qui fortifient leur union, la protège comme d'un filet aux mailles serrées. C'est cette vigilance qui vous a manqué avec moi, mon cher Jérôme, cette clairvoyance attentive et observatrice. Cela vous a manqué et j'en ai souffert, sans vous le dire. Toutes les femmes à ma place ont dû souffrir également, et ne voyez pas là une exigence particulière à ma nature. C'est ainsi pourtant que nos deux existences, malgré toutes les apparences d'une union heureuse, se sont isolées réciproquement, se sont dissociées peu à peu. Sans nous en rendre compte exactement, nous en sommes venus assez vite à nous désintéresser l'un de l'autre, j'entends au point de vue sentimental et passionnel. Nous restions liés par des liens apparents, mais sans solidité réelle. Ces liens ont dû céder à notre effort vital. Au fond, nous désirions autant l'un que l'autre retrouver notre liberté. J'ai eu l'air de vous devancer dans cette reprise de nos existences, mais le désir en était en nous, simultané. Nous croyions nous toucher par nos racines, et nous avions simplement mêlé nos branches. Un moment est venu où, d'un commun accord, nous nous sommes dégagés. Le phénomène était inévitable, et nous n'avons pu l'éviter. La crise, heureusement, n'eut rien de tragique. Nous l'avons tous deux fort bien supporté. Je ne veux pas dire du tout que nous ne soyons pas aimés. Quant à moi, vous savez le sentiment que j'ai éprouvé pour vous. On peut le considérer comme de l'amour, si l'on ne trouve pas indigne de ce nom, un mélange de sympathie, d'estime, d'amitié, et de quelque chose de plus encore. Je sais bien que tout cela ne compose pas l'amour tel que le définissent les romanciers, mais c'est ainsi que le ressentent bien des honnêtes gens et qui se contentent de se pis-aller. Pour vous, oh, je ne doute pas que vous ne m'ayez aimé à votre façon. Vous m'avez honoré d'un goût violent, assez violent même pour faire taire momentanément au moins vos autres intérêts. J'y pensais l'autre jour dans ce pavillon de Sainte-Dorothée où j'étais allé rendre visite à ma tante de Brégin. En attendant qu'elle parût, je me représentais votre entrée dans ce même parloir il y a 5 ans. Vous y veniez pour accomplir une corvée. Et tout à coup, par hasard, vous avez regardé vers le coin de la salle où je me trouvais. Il y avait là une petite pensionnaire qui portait le vilain costume de la maison. Mais sous cette robe mal taillée, vous aviez deviné un corps bien fait, et dans cette pensionnaire, vous aviez découvert une jeune fille. Et dans cette jeune fille, une femme. Et soudain, vous sentîtes un brusque désir d'être regardé par ses yeux, touché par ses mains, appelé par cette bouche. Puis la possession de cet être, encore tout à l'heure inconnu, vous parut subitement indispensable, et du coup, vous étiez décidé à tout pour satisfaire votre désir. Oui, mon cher Jérôme, vous si raisonnable, si sérieux, vous avez eu votre moment de folie amoureuse. Vous étiez devenu pareil à un de ces chercheurs d'or de Californie qui, aux temps héroïques de Bret Hart, se disputaient du pistolet et du couteau la pépite merveilleuse, objet de leur convoitise. Vous étiez semblable à ces trappeurs qui enlèvent la fille du chef au galop de leur Mustang. Heureusement que la petite personne en question n'exigeait pas de si grands efforts. Elle était disponible et ne demandait pas mieux que de vous suivre. D'ailleurs, elle comprenait fort bien ce que vous éprouviez pour elle. Cette furie toute californienne la flattait, et puis les nécessités de ma situation matérielle me disposaient à me faire agréer votre proposition. Cependant, cette dernière considération n'eut pas suffi à me décider. Vous me plaisiez, Jérôme, et je me laissais persuader. Ce fut ainsi que vous emportâtes au bout du monde la petite pensionnaire de Sainte-Dorothée, au grand ébahissement des bonnes mères. Mais le plus curieux de notre aventure, c'est qu'après avoir satisfait votre désir de moi, vous continuâtes à m'aimer, ou plutôt à aimer en moi le souvenir de la violente émotion sensuelle que je vous avais procurée. Vous fûtes heureux, et comme je ne semblais pas malheureuse, tout vous parut pour le mieux dans le meilleur des nouveaux mondes. Je vous devins une habitude agréable que vous trouviez chaque soir au logis, au retour de vos affaires. Sans vous inspirer le vif attrait de nos premiers mois de mariage, je continuais à vous être d'un divertissement appréciable, mais l'idée ne vous vint pas de vous occuper de moi au sens profond du terme. Oh, vous eûtes pour moi des attentions délicates, mais vous ne me témoignâtes pas cette attention vigilante dont je vous parlais tout à l'heure. Jamais vous ne montrâtes aucune curiosité des changements qui pouvaient se produire en moi. Et cependant, je changeais à votre insu, parce que tout change et que c'est la vie. C'est pourquoi, peu à peu, mon bon Jérôme, voyant que vous ne vouliez pas de moi, je me suis reprise. Vous en étiez restée à la lourde Lérin, remarquée par vous au parloir du couvent. Vous ne vous aperceviez pas qu'une autre personne s'était formée en elle. Celle-là semblait ne vous concerner point et vous demeurait étrangère. Vous ne vous êtes jamais avisé de sa présence, inquiété de ses aspirations, de ses rêves, de ses besoins. Dans la comédie de notre vie, vous n'avez pas joué le rôle de l'indifférent, vous avez joué celui de l'inattentif. Telle fut notre histoire sentimentale, mon cher Jérôme. Si je vous l'expose ainsi, oh, ce n'est nullement pour m'en plaindre. Ce qui a été, devait être. C'est égal, vous n'avez guère deviné mes goûts d'indépendance et de liberté, mais passons. N'allez pas croire surtout que mes explications ont pour but de revendiquer contre vous quelque supériorité au nom de ma clairvoyance, nullement. Ce que je vous en dis n'a d'autre motif que de vous avertir d'un danger possible. Votre Alicia est une charmante compagne, mais prenez garde de ne pas renouveler avec elle la faute que vous avez commise envers moi. Elle aussi changera, son caractère se modifiera. Les femmes sont les moins invariables de tous les êtres. Observez Alicia avec soin, ne la laissez pas se transformer à votre insu, sinon elle vous échappera. Soyez attentif, Jérôme. C'est la recommandation que vous adresse mon amitié. On ne voyait là aucun regret, mais une simple remarque d'intérêt pour la durée de votre bonheur. Je ne terminerai pas cette lettre sans vous répéter ce que je vous ai déjà écrit. Je suis heureuse de ma nouvelle existence. La vie à Paris, comme je la mène, est délicieuse. Je la recommanderais à quiconque a le goût de l'indépendance et de la solitude. Nulle part, mieux qu'à Paris, on ne peut satisfaire cette disposition d'esprit. Et cependant, je vais de moi-même y porter atteinte. Bon, ne riez pas de ces contradictions, elles sont bien féminines. Oui, je m'apprête à quitter mon cher petit hôtel Manfred, où je me suis accoquiné depuis mon retour des Guérets, et dont je commence à devenir une des doyennes, non d'âge, Dieu merci, mais de séjour. Dès demain, je vais donc me mettre sérieusement en quête d'un appartement et me résigner à rentrer dans la vie civilisée, car jusqu'à présent, j'ai vécu à Paris comme une véritable sauvagesse. C'est pourquoi, afin de me préparer à reprendre rang dans la société, je vais entreprendre courageusement la tournée de visite aux quelques vieilles amies de ma mère qui me restent et dont quelques-unes se sont vaguement intéressées à moi. Bon, c'est une formalité ennuyeuse, mais vraiment indispensable, car ce sont les vieilles dames qui disposent de notre réputation. Heureusement que l'ennui de ces visites sera quelque peu compensé par les spectacles comiques qu'elles m'offriront sûrement. Je vous écrirai l'accueil que j'aurai reçu de ces parcs. Cela vous amusera, ainsi qu'Alicia. Je la vois d'ici, haussant les belles épaules et vous répétant avec son air sage et positif « Ces Françaises sont folles !» Elle aura raison dans les trois quarts et demi des cas, mais pas du tout en ce qui me concerne. Mes projets sont au contraire fort raisonnables. Comptant vivre à Paris, je prétends y fréquenter la meilleure société. Pour cela, je dois mener une existence très régulière et qui ne prête à aucune insinuation malveillante. Je sais que ma situation est un peu délicate, mais on peut bien, que diable, n'avoir pas de mari et n'être pas pour cela une gourgandine. L'inverse est d'ailleurs également possible. Ainsi, cette chère Madeleine de Gersainville, oh, je ne l'ai pas encore revue. En quittant les Guérets, elle est allée faire un tour à Monte-Carlo. D'ailleurs, je vous l'ai dit, je compte ne la voir qu'avec ménagement et ne pas trop montrer en public en sa trop galante compagnie. À bientôt, mon cher Jérôme. Mes amitiés à Alicia. Je suis affectueusement votre ami, Laure de Lérin. À Monsieur Jérôme Cartier, Burlingham, San Francisco, États-Unis, Hôtel Manfred, rue Lord Byron, Paris, le 28 février. Mon cher Jérôme, depuis que je vous ai écrit, j'ai fait de grandes choses, dont la principale fut d'arrêter un appartement. Je vous dirai tout d'abord qu'il n'est situé dans aucun des endroits de Paris que j'aime le mieux. Je n'habiterai donc ni dans une de ces belles demeures de la place Vendôme, dont j'admire tant la noble ordonnance Louis XIVienne, ni dans un de ces vieux hôtels du temps de Louis XIII qui bordent la place des Vosges. Les hautes façades de pierre, pas plus que les pittoresques pavillons de briques, n'abriteront votre servante. Je n'aurai pas non plus logis dans ces sympathiques maisons qui entourent le jardin du Palais Royal et qui le dominent de leurs balcons à vases sculptés. Il ne faut pas davantage que vous m'imaginiez dans quelques dignes et moroses immeubles du quai Malaquais, pas plus que dans quelques vastes et élégantes bâtisses de l'avenue du Bois. Ce n'est ni aux alentours du Luxembourg, ni au cœur du faubourg Saint-Germain, que l'or de l'airain fixera ses pénates. Des raisons diverses en sont la cause, dont la principale est que de pareilles locations eussent trop fortement entamé les ressources de mon budget. Cette constatation faite, j'ai donc dû me rabattre sur des emplacements plus modestes. Comme j'hésitais entre la rive droite et la rive gauche, j'ai eu un moment l'intention de départager mon incertitude en élisant domicile dans l'île Saint-Louis. J'avoue que la charmante singularité de ce vieux quartier me tenait passablement. Oh, je m'y promène souvent, et c'est une de mes rêvoires favoris. Je l'aime beaucoup. Il forme dans Paris comme une petite province insulaire qui a son charme original et particulier. Je ne puis pas m'imaginer que l'île Saint-Louis dépende de l'administration municipale. Non, je ne puis me résoudre à ne pas considérer l'île Saint-Louis comme un État indépendant, jouissant de privilèges et d'autonomie. Elle est pour moi une sorte de Val d'Andorre, une espèce de République de Saint-Marin, une manière de principauté de Monaco. Elle doit être pourvue d'un statut indépendant. On y doit vivre avec des mœurs et coutumes strictement locales. On ne m'enlèvera jamais la persuasion que l'île Saint-Louis a un gouverneur et que ce gouverneur habite l'hôtel Lauzin, un évêque et que cet évêque a pour évêché l'hôtel Lambert, un grand juge et que ce magistrat réside à l'hôtel de Bretonvilliers. Tous ces gens doivent porter des costumes spéciaux et des signes appropriés, procéder à des cérémonies mystérieuses, à des galas secrets. La nuit, des cortèges, des processions fantastiques parcourent certainement les rues silencieuses de l'île. Puis au matin, tout rentre dans l'ordre accoutumé, et l'île désenchantée reprend son aspect ordinaire, demi-bourgeois, demi-populaire, avec ses hôtels démodés, ses vieilles maisons, ses boutiques. Ah, certainement, Jérôme, si j'avais habité cette île Saint-Louis, j'y eusse découvert de curieuses choses. Et la femme sans tête, qui est au coin de la rue Le Gratier, fut venue me faire d'étranges confidences. Mais je ne suis pas à Paris pour y rêver, j'y suis pour y vivre, et les fantômes ne sont pas d'une société. C'est pourquoi, malgré ce que ce quartier a de tentant, malgré ses belles vues de Seine, malgré la dignité mélancolique de ses antiques maisons, j'ai renoncé à devenir une insulaire. Je ne serai pas la Robinson de l'île Saint-Louis. Je n'en connaîtrai pas les secrets, je n'en explorerai pas le mystère. Le quartier donc que j'ai choisi est infiniment moins romanesque, mais il convient beaucoup mieux au genre d'existence que je compte adopter. Il n'est ni élégant, ni populaire, ni désert, ni bruyant. La rue où j'habiterai porte un nom convenable, facile à retenir et à prononcer. Ce dernier point me préoccupait beaucoup. Avec la manie actuelle de donner aux rues des noms de plus ou moins grands hommes, on est exposé à passer sa vie sous le patronage d'un monsieur désigné par un ensemble de syllabes qui ne vous plaît pas et qui même peut parfaitement vous horripiler. Or, ce vocable signalétique, vous êtes obligé de le prononcer 10 fois par jour, de le faire répéter par vos amis, de le confier de vos fournisseurs, de l'inscrire en tête de votre papier à lettres. Pendant toute la journée, vous dépendez ainsi d'un bonhomme que vous ne connaissez pas, pour qui vous n'avez aucune admiration, aucune sympathie, et qui vous impose l'usage d'une sonorité désagréable, odieuse ou ridicule. Oh, c'est un rien, me direz-vous. Oui, mais c'est un rien qui a tout de même son importance. Et ce sont ces petites choses qui contribuent à l'agrément ou au désagrément de la vie. Elles ont leur part infime et réelle dans notre bonheur. Donc je n'aurais jamais voulu m'affubler d'une rue dont le nom m'aurait par trop déplu. Par contre, hein, il doit être délicieux d'être en quelque sorte l'hôte d'un peintre ou d'un écrivain aimé. Aussi, si je me vois très bien, rue Marivaux, rue Alfred de Vigny, rue Eugène Delacroix ou rue Watteau, je ne puis pas m'imaginer rue Hippolyte Flachat ou boulevard Raspail. Le mieux n'est-il pas de se choisir une rue dont le nom qui la désignerait n'attirerait pas l'attention, n'évoquerait aucun souvenir précis et aurait pris l'air de ne plus appartenir à personne, avec quelque chose d'irréel et d'imaginaire? Et ce fut en cette considération, et aussi pour quelques autres motifs, que je me suis décidé à louer rue Gaston de Saint-Paul. Rue Gaston de Saint-Paul, vous ne trouvez-vous pas que c'est d'un vague tout à fait satisfaisant? Gaston de Saint-Paul, oh, on dirait une signature de valseur retrouvée sur un vieux carnet de bal. Gaston de Saint-Paul. Gaston est gentiment familier, Saint-Paul est élégamment aristocratique. Maintenant, qu'était au juste ce Gaston de Saint-Paul? Ben, je vous le dirai une autre fois quand je me serai renseigné à son sujet. Dieu veuille que je n'aie point sur ce chef de fâcheuses surprises, car je serais très capable d'en moins aimer mon joli appartement. Il est commode et bien distribué. La maison, confortable, n'est pas de ces bâtisses tout à fait neuves où tout semble être en carton. Sans être ancienne, on sent qu'elle a déjà fait ses preuves. Autre avantage, l'appartement était inoccupé. Pour moi, c'était une condition essentielle, car connaître les gens qui vous ont précédé et auxquels nous succédons, oh, quelle horreur! Avoir dans les yeux le souvenir de leur visage, quel dégoût! Savoir quels étaient leurs meubles, où ils étaient placés. Il y a dans ces superpositions, dans ces mélanges, dans ces promiscuités, je ne sais quoi d'écœurant. Cela m'eût enlevé tout plaisir à m'installer. Tandis qu'entrer dans un appartement vide, oh, ce n'est pas du tout la même chose. On sait bien que ce sont des êtres humains que l'on y remplace, mais c'est tout. La bête est sortie de la coquille. Il suffit de nettoyer, de gratter, de lessiver et de repeindre, et l'on peut presque se croire le premier occupant. Sans cela, mes nuits eussent été hantées par des spectres de contribuables et par des fantômes de locataires. L'autre sujet de quelque importance dont j'avais aussi à vous entretenir, mon cher Jérôme, ce sont les visites que j'ai faites aux amis de ma mère. Si, lorsque vous m'avez épousé il y a 5 ans, vous ne m'aviez pas emporté en Amérique avec un empressement qui ne semblait pas présager l'état où nous en sommes aujourd'hui, je vous eusse présenté alors à ces respectables dames. Et je n'aurais pas à vous les décrire, à vous envoyer leurs portraits par la poste. Mais vous m'avez entraîné si rapidement et si jalousement de l'hôtel au paquebot que j'ai dû avertir par lettre ces honnêtes douairières du cours de mes destinées. Oh, je sais bien que ces destinées ne les préoccupaient pas extrêmement. Elles avaient d'ailleurs quelque peu perdu de vue ma mère, qui, à la mort de papa, s'était retirée à Nice, où j'avais alors 7 ans. Quand nous revînmes à Paris, j'en avais 14. L'hiver suivant, maman mourait et ma grand-tante de Brégin me fit entrer à Sainte-Dorothée. Ce fut durant l'année qui précéda ces événements que je fis la connaissance des quelques amis que ma mère voyait alors, parmi lesquels madame Bruvane et madame de Felletin. Elles furent les deux seules qui s'intéressèrent quelque peu à mon sort. Pour les autres, j'étais la petite de l'airain, rien de plus. Se souvenaient-elles seulement de moi? Dans le doute et voulant, pour les raisons que je vous ai dites, rentrer en relation avec elles, je crus bon de leur rafraîchir un peu la mémoire. Aussi rédigeai-je à leur intention une sorte de lettre circulaire où je leur rappelais qui j'étais et où je leur demandais la faveur de me présenter chez elles. Pour plus de prudence et pour éviter tout malentendu, je leur expliquais brièvement ma situation. Je vous avoue, mon cher Jérôme, que toutes les réponses à ma circulaire furent favorables, sauf une. La personne qui me l'adressa, et dont je vous tairai le nom, me laissait entendre, en termes assez rechignés, qu'elle n'avait aucune envie de me voir. Elle faisait une allusion discrète mais ferme à mon divorce. Il est vrai que cette personne passe pour avoir tellement tourmenté son premier mari que l'infortuné a pris le parti de se tirer une balle dans la tête, ce qui a permis à sa veuve d'épouser son amant. Bien que cette mégère doucereuse lui fît la vie dure, ce dernier, décidé à ne point tenter à ses jours, se contente de se procurer de temps à autre quelques répits en administrant à sa moitié une magistrale correction à la cravache. Oh, je tiens ces renseignements de ma pauvre maman. Elle ne cachait pas l'amusement qu'elle prenait à la pensée que cette madame B, si hautaine, si pimbèche, avec son faux toupet et son râtelier, passa périodiquement ainsi par les verges conjugales. Sauf cette avanie que j'ai supportée d'un cœur léger, toutes mes autres missives ont donc reçu bon accueil et j'ai commencé immédiatement ma tournée. Je ne vous raconterai pas toutes mes visites, car certaines, pour utiles qu'elles fussent, manquèrent par trop d'intérêt, mais je veux vous en rapporter quelques-unes dont le récit vous amusera peut-être. Je vous emmène donc chez la duchesse de Pornic-l'Urvois, à l'accueil de qui j'ai attaché quelque importance. Mes parents ont eu avec elle des relations suivies, car mon père avait été officier d'ordonnance du général-duc de Pornic-l'Urvois. Après la mort de mon père, le duc et la duchesse avaient coutume de marquer à ma mère une certaine considération. Aussi tenais-je fort à renouer avec eux. La duchesse venait justement de rentrer à Paris de son château de l'Urvois dans l'Eure et de se réinstaller dans son hôtel de la rue de Beaune. De sa grosse écriture de curé de campagne, la duchesse m'avait mandé qu'elle me recevrait le jour qu'il me plairait, sur les 2 heures. Je fus exact au rendez-vous. L'hôtel a vraiment grand air avec son portail sommé de 2 sphinx et sa cour circulaire coupée en croix par un dallage de pierre grise. Le bâtiment, dans le style de Gabriel, est d'un aspect noble, mais il ne faut voir qu'à distance. Dès le vestibule, qui est vaste et de belles proportions, la déception commence. La duchesse de Pordic le revoit, qui a été douée par le ciel de toutes les vertus, a été affligée d'un goût atroce par lequel elle est arrivée à gâter, autant qu'elle l'a pu, cette belle demeure. Et le plus singulier, c'est qu'en accomplissant ce meurtre, elle a cru s'acquitter d'un devoir de famille. En effet, toute duchesse de Pordic qu'elle soit, elle est encore plus fière, s'il se peut, d'être née le Rebuffard de l'Averlade et d'être la fille du comte le Rebuffard, ministre de l'Intérieur du roi des Français Louis-Philippe. Aussi est-ce à ce sentiment qu'elle a obéi en encombrant l'hôtel de la rue de Beaune de l'abominable mobilier à elle légué par ce vieux fripon de la Rebuffard. Oh, je ne vous en décrirai pas les abominations. Elle déshonore les salons, corne avec une affreuse et lamentable profusion plusieurs portraits en pied de ce célèbre et vilain personnage. On y voit tous les costumes de ses charges, avec sa figure revêche et chafouine, sa mine sèche et niaise. Quant aux effigies des Pordic le roi, on les tient sûrement en petite estime. J'ai pu m'en apercevoir en traversant la cour de l'hôtel. La porte de la remise était ouverte et un cocher, un dégaine de sacristain, nettoyait, oh, on eût dit avec de l'eau bénite, le vernis écaillé d'un antique trois quarts. Au passage, je jetai un coup d'œil vers cette remise. Mais quelle ne fut pas ma surprise! Sur le mur du fond, accroché là, sans cadre et tout accru, se carrait un magnifique portrait équestre du maréchal de Lurvoy, le vainqueur du prince Eugène et de Marlborough. Le vieux maréchal, avec sa perruque, sa cuirasse, son manteau, son cordon bleu et ses grosses bottes en entonnoir, dirigeait de son bâton fleur-de-lysé une bataille symbolisée par la grenade qui éclatait entre les jambes de son cheval. Oh, il avait une autre figure tout de même, le Lurvoy de la remise, que le Rebuffard du salon. Le plus comique, c'est que la duchesse ne traite pas beaucoup mieux son mari que ses ancêtres militaires. Le pauvre général de Lurvoy a eu la vie dure avec son épouse. Aussi prit-il le parti de devenir doucement gâteux. Cela commença qu'il était encore en activité, si l'on peut dire, et mon père lui facilitait adroitement sa besogne. Malgré tout, il dut se faire mettre en retraite. Il était en piteux état la dernière fois que je le vis. Ma mère était déjà bien malade à ce moment. Elle m'avait amené avec elle en visite chez la duchesse, qui, voyant que je m'ennuyais, m'avait envoyé goûter à la salle à manger. Le général était occupé à accomplir la même cérémonie en compagnie de son domestique. Il était assis, la serviette nouée au cou, comme un enfant. Le domestique lui faisait boire son chocolat à la cuillère, en tirant parfois la ficelle d'un beau pantin costumé en zouave, ce qui amusait fort monsieur le duc, qui témoignait de son contentement en battant des mains et en salissant sa serviette. Quant à la duchesse, elle est imperturbable. Et je l'ai retrouvée toujours la même, malgré ses 70 ans bien sonnés. C'est une petite femme, presque nabote, avec une grosse tête et d'énormes mains. Son corps chétif est dissimulé dans une sorte de houppelande. Elle porte un tour de cheveux gris et deux longues papillotes. Je l'ai trouvée assise sur une chaise basse, ses fortes mains croisées sur son ventre rond, ce ventre qui fut le malheur de sa vie, car il n'a pu donner à la maison de Pordic le roi l'héritier qui eût perpétué en même temps l'intéressante race des Le Rebuffat. Et c'est ce que lui semblait reprocher amèrement le portrait en pied du ministre, sous le regard irrité de qui la duchesse et moi entrâmes en conversation. Je ne vous rapporterai pas par le menu, mon cher Jérôme, le détail de cet entretien historique. Je vous en résume seulement les points importants. Le principal était pour moi de savoir l'opinion de la duchesse sur ma position de divorcée. Me recevrait-elle en quelque sorte incognito ou me compterait-elle parmi ses relations avouées? Au fond, j'aurais dû d'avance savoir à quoi m'en tenir. Qu'est-ce aux yeux d'une duchesse de Pornic-l'Urvois qu'un mariage avec un sieur Cartier domicilié en Amérique? Quelle importance cela pouvait-il bien avoir que je vécusse ou non avec ce monsieur? Quant à mon divorce, il avait eu au moins l'avantage de me faire cesser d'être Madame Jérôme Cartier et de me faire redevenir Lord de Lérin. Ce dernier point était l'essentiel. J'avais enfin retrouvé un nom convenable, agréable à porter. J'étais dorénavant une personne que l'on pouvait sans inconvénient nommer dans un salon aristocratique. Cela valait tout de même mieux que d'être restée Madame Jérôme Cartier. En somme, la reprise de possession de mon nom d'autrefois m'assurait la bienveillante protection de la duchesse. Elle me laissa entendre que, si j'étais docile et complaisante, je pourrais très bien être utilisable dans quelque ouvroir sérieux et admise à participer à quelques ventes de charité bien composées. Certes, elle ne me voyait pas encore dame patronesse ou chef de comptoir, mais je ferais une bien gentille auxiliaire. Ce fut sur ces assurances que je quittai la duchesse. En somme, l'entrevue a donné un résultat fort appréciable. J'ai pour ainsi dire repris existence aux yeux de la duchesse. Bon, je suis encore très peu de choses, un embryon, une poussière, mais je suis ce qui est beaucoup, et que ne pouvait pas être, mon cher Jérôme, Madame Cartier. Aussi ne manquai-je pas, en prenant congé de la duchesse, de lui marquer ma reconnaissance. Elle parut aise du procédé, m'en sut gré, au point qu'elle m'entretint encore un bon quart d'heure de coliques sèches qu'elle avait eues la nuit d'avant. Décidément, je faisais des progrès dans sa familiarité, et je crus qu'elle ne me laisserait pas partir sans me présenter à tous les rebuffards qui grimaçaient sur les murs du salon. L'honneur eût été grand, mais j'eusse préféré faire ma révérence au bon maréchal de l'Urvois, si gaillard au fond de sa remise. Hélas, je ne le vis plus en sortant, la porte était fermée. Au même moment, le trois-quarts attelé d'un antique cheval s'ébranlait. Affalé sur des coussins, j'entrevis le duc qui partait pour sa promenade quotidienne. Il me parut bien affaibli, le pauvre vieux, et je crains, sans jeu de mots, qu'il n'aille pas loin. Si tel est, mon cher Jérôme, la première cariatide de ma future situation mondaine, la seconde ne mérite pas moins que je vous trace son portrait. Il s'agit de Madame Grinderel, la femme de Grinderel, l'éminent administrateur des banques réunies. Si la duchesse de Pornic a son hôtel 6 rue de Beaune, celui de Madame Grinderel est situé rue de Monceau. Je ne sais plus où ma mère avait connu les Grinderel, mais je me souviens très bien d'être allé une ou deux fois chez eux et que Madame Grinderel vint un jour me voir au couvent. Cela suffisait pour que je la mis sur ma liste. Madame Grinderel, du reste, m'a reçu fort aimablement, et je vous dirai que ma visite ne me fut nullement désagréable, non que j'ai pris grand plaisir à causer avec Madame Grinderel, mais parce qu'en lui parlant, j'avais sous les yeux les quatre admirables tableaux de Chardin qui ornent le grand hall de l'hôtel. Ce sont quatre natures mortes représentant l'une un pin et un citron, l'autre un chaudron avec des fruits, et la troisième du gibier et la quatrième du poisson. Ces quatre chardins chez Madame Grinderel ont l'air de tableaux de famille, car Madame Grinderel est de la race des grandes bourgeoises. Ils ont comme une importance d'emblème. Madame Grinderel, en effet, semble plus faite pour aller au marché que dans le monde. Quelle belle poissarde, quelle belle boulangère elle eût été! Elle est de haute taille, vigoureuse et trapue, carrée et écarrie. Elle a de beaux gros traits, de bons gros yeux. Elle a le corps bâti à chaux et à sable. C'est, je vous le répète, le type parfait de la bourgeoise. On la croirait, à la voir, uniquement préoccupée de soucis de ménage et de soins matériels. Eh bien, on se tromperait singulièrement. Sous cette enveloppe vigoureuse, sous cette allure ménagère, Madame Grindrelle cache une âme falote et romanesque et une incapacité absolue de diriger sa maison. Avec son aspect partial, Madame Grindrelle est une rêveuse et une étourdie. Son inaptitude aux choses de la vie courante est extraordinaire. Elle n'y entend exactement rien. Elle le sait, et il lui en est venu une sorte de timidité particulière. Discuter avec des fournisseurs, commander à des domestiques constitue pour elle un véritable supplice. Donner des ordres lui apparaît un acte presque surhumain. Aussi est-ce Grindrelle qui s'occupe de tout chez lui, qui ordonne les repas, règle la dépense, fait les achats. Il va même jusqu'à surveiller les toilettes de sa femme. Et l'on a vu plus d'une fois, au sortir de quelques graves conseils d'administration où se sont débattus d'énormes intérêts financiers, faire arrêter son coupé à la porte de la couturière à la mode ou de la modiste en vogue. À cette intervention conjugale, Madame Grindrelle gagne d'être une des femmes les plus singulièrement habillées et coiffées de Paris, mais par contre, l'hôtel Grindrelle est admirablement tenu. Monsieur Grindrelle a la tradition des grands traitants et des somptueux fermiers généraux d'autrefois. Ce petit homme gringalet qui n'a que le souffle et qui, avec ses lunettes à double verre et à branches d'or, semble à moitié mort et à demi aveugle, est un connaisseur d'art des plus distingués. Ce manieur d'argent est aussi un manieur de bibelots. La collection de Madame Grindrelle est une des plus considérables et des mieux choisies de Paris. Il est bien défendu, naturellement, Madame Grindrelle, de toucher à quoi que ce soit. Madame Grindrelle est distraite et elle a la main malheureuse. Aussi, ne s'occupant ni de sa maison, ni de sa toilette, la bonne Madame Grindrelle a-t-elle, comme on dit, beaucoup de temps à elle? Ce temps, bon, elle l'emploie à lire des romans feuilletons. Ces feuilletons lui ont d'ailleurs quelque peu tourné la cervelle. Pour Madame Grindrelle, la vie est pleine d'embûches et de périls. Aussi ne quitte-t-elle guère Paris, et par Paris, elle entend les quartiers riches de la capitale, et en particulier celui de la plaine Monceau. Autre part, oh, il n'y a pour personne aucune sécurité. Le danger de vivre forme le principal thème de la conversation de Madame Grindrelle. On dit qu'elle fait monter auprès de son cocher un agent de la sûreté déguisé en valet de pied. Quant à des voyages, Madame Grindrelle a renoncé de tout temps à en entreprendre aucun au-delà de la banlieue. Passer les fortifications lui paraît déjà un exploit extraordinaire, digne de casse-cou et de cerveau brûlé. Ce sentiment a fort contribué à inspirer à Madame Grindrelle un véritable respect à mon égard. Pensez donc une personne qui est allée en Amérique et qui, ce qui est plus curieux encore, en est revenue. Cela ne tient-il pas du miracle? C'est cet étonnement que j'ai pu lire sur le visage de la bonne Madame Grindrelle quand je suis allé lui rendre mes devoirs. Elle me considérait avec une surprise émue. Quoi, si jeune encore, j'avais traversé l'Atlantique, parcouru tout un continent, et de cette formidable équipée, j'étais revenu saine et sauve avec mes deux yeux, mes deux oreilles, mes quatre membres. Ah, quel danger prodigieux n'avais-je pas échappé? Quoi d'étonnant aussi que dans un pareil pays, j'eusse perdu mon mari? Un divorce est une bien mince aventure pour quelqu'un qui a dû en courir tant d'autres. Je dois m'estimer d'en être quitte à si bon marché. La bonne et vague Madame Grindrelle ne pouvait supposer un instant que j'eusse vécu là-bas pendant 5 ans, dans un élégant et confortable cottage situé aux environs d'une grande ville, et que l'endroit appelé Burlingame fut une espèce de Saint James californien. Elle ne pouvait pas comprendre que je n'eusse pas été scalpé par les peaux-rouges et que je n'eusse pas passé mon temps à faire un coup de revolver avec les cowboys, que je n'eusse pas manié le tomahawk et le lasso, logé dans un wigwam et mangé du pemmican à tous mes repas, comme dans les romans de Gustave Aimard, de Main Raid et de Gabriel Ferry, dont elle fait ses délices. Cela dépassait son entendement, et elle pensait que je lui cachais les péripéties de mon existence dans la savane et la pampa pour ménager sa sensibilité. Aussi m'a-t-elle fort poussée aux confidences. J'aurais pu aisément lui faire croire, mon bon Jérôme, que vous êtes tatoué des pieds à la tête, que vous portez un anneau dans le nez et des plumes sur la tête. Elle mettait ma réserve sur le compte de ma modestie. Mais je n'en étais pas au bout de mes peines. Si j'avais échappé à de lointains dangers, il me restait à éviter ceux de Paris. Une jeune femme seule y est exposée à bien des entreprises et à bien des périls. Et la bonne Madame Graderelle mettait à ma disposition le peu d'expérience qu'elle avait pour me guider dans ce dédale. Je n'eus garde de refuser des offres si obligeantes. Madame Graderelle, qui n'est pour l'esprit ni une Madame Geoffroy ni une Madame du Deffand, dispose cependant d'un salon influent. Quoiqu'elle n'ait pas de grandes aptitudes à ce rôle, elle n'en est pas moins la femme de Graderelle, et la puissance de Graderelle est un centre d'attraction suffisant pour que les réceptions de son épouse soient fort courues. Il est donc bon d'avoir un pied sur ce terrain, et je l'aurai. Ce sera un peu dur au début, car il faudra commencer par subir les conseils de Madame Graderelle, mais je m'y ferai, et je compte bien profiter des avantages mondains de la maison. Ceux que je compte tirer de Madame de Glockenstein sont également appréciables. Madame de Glockenstein s'était liée avec ma mère durant un séjour à Nice. Monsieur de Glockenstein est allemand et Madame de Glockenstein est belge. À eux deux, ils sont fort riches et on peut lui trouver encore une sorte de beauté. C'est une femme d'une cinquantaine d'années, avec une figure régulière et agréable, l'air gai et paisible. Elle a cette particularité que la réflexion lui fait faire une grimace assez comique. À ces moments, elle pince les lèvres d'une certaine façon. Ajoutez-lui un maquillage hardi et naïf à la fois et des cheveux teints en or. Le soir, elle pose une large mouche à la naissance de sa gorge qu'elle a abondante. Madame de Glockenstein occupe un bel appartement au rond-point des Champs-Élysées. Elle l'a choisi afin de pouvoir, de sa fenêtre, assister à toutes les entrées de souverains. Madame de Glockenstein tient en effet un salon politique, un vrai et non une de ces parlottes où l'on discute à vide des événements qui sont dans les gazettes et où l'on règle à Cracovie les destinées de l'Europe. Le salon de Madame de Glockenstein n'a rien de terne ni d'ennuyeux. Il est rempli de jolies femmes et l'on y cause littérature, théâtre, galanterie. Seulement parfois, entre deux portes ou au fumoir, s'y rencontrent des gens qui pourraient difficilement se voir ailleurs et qui ne tiennent pas à être vus ensemble. Madame de Glockenstein est un terrain neutre, comme qui dirait une maison de rendez-vous diplomatique. Ma qualité d'assez jolie femme ne m'a donc pas desservi auprès de Madame de Glockenstein. Il lui faut des comparses avenantes pour les comédies internationales qui s'ébauchent sous son couvert. Aussi ai-je vu tout de suite que je plaisais à Madame de Glockenstein et qu'elle m'appréciait à ma juste valeur. Elle a jugé que je pourrais faire chez elle figure avantageuse. Elle m'a comblé d'avance et de politesse et m'a invité à dîner pour le lendemain. Je me suis excusé en alléguant que j'étais encore à l'hôtel, que mes malles n'étaient pas défaites et que je ne commencerais ma vie mondaine qu'au printemps prochain. Néanmoins, j'avais tenu à lui venir rendre les devoirs que l'on doit à une personne de son importance. Elle m'a fort approuvé sur tous les points, et nous nous sommes quittés les meilleurs amis du monde, non sans qu'elle m'ait posé toutefois certaines interrogations quelque peu indiscrètes au sujet de mon divorce. J'y ai compris que Madame de Gockelstein ne s'occupe pas uniquement de questions politiques. Les questions amoureuses l'intéressent aussi, elle les aborde sous leur forme la plus physique. Elle voulait absolument savoir si notre séparation avait pour cause que nous fussions mécontents l'un de l'autre à un certain point de vue. Ces choses semblent avoir un grand prix pour Madame de Gockenstein. Elle ne m'a rien caché sur sa manière de faire l'amour, sur le plaisir qu'elle y prend. Je l'ai laissé parler là-dessus longuement et éloquemment, et c'est ainsi que je me suis tiré de ces indiscrétions. Quoique j'eusse pu lui opposer des faits tout à votre honneur, mais je n'ai guère le goût des confidences, même des confidences rétrospectives. D'ailleurs, je vous le répète, je compte m'entretenir avec les personnes que je vous ai énumérées que des relations d'utilité et de simple politesse. Ne concluez pas, cependant, de là, mon cher Jérôme, que j'ai l'intention de vivre à Paris dans une complète solitude de cœur. Oh, je sais bien qu'à cette solitude, je suis quelque peu accoutumé, et que cette accoutumance me vient de vous. Durant les années que nous avons passées ensemble, j'ai perdu l'habitude de m'épancher. Vous étiez un homme occupé, et de vos occupations, je n'étais pas tout à fait, convenez-en, la principale. J'ai donc pris l'habitude de vivre beaucoup seul. Vous vous souvenez de mes longues heures de retraite dans la bibliothèque de Burlingame? Ce régime, en somme, ne me déplaisait pas trop. Néanmoins, il n'y a pas de raison pour que je le continue indéfiniment. Maintenant que j'habite à Paris, je n'ai pas renoncé à m'y faire des amis. Vous me direz que j'ai Madeleine de Gersainville comme première mise de jeu. Certes, comme je vous l'ai déjà écrit, j'aime beaucoup Madeleine. C'est une bonne fille, il y a en elle bien des choses qui me plaisent. Sa gentillesse, sa simplicité, sa franchise. Mais il y a aussi certaines poussées de sa nature qui m'épouvantent un peu et que sa franchise même rend plus redoutables encore. Madeleine a en moi une confiance gênante et je regrette, à vous dire vrai, qu'elle m'ait mise avec tant de naïveté au courant de ses déportements. J'en éprouve auprès d'elle un certain malaise que je ne ressentirais pas autrement. Que j'eusse appris que Madeleine eût des amants, cela m'eût été nullement désagréable. D'abord, j'aurais pu le croire ou ne le pas croire à mon gré. J'aurais pu accuser la malignité publique de mensonge ou au moins d'exagération. Tandis qu'après ce que Madeleine de Gersainville m'a raconté, aucun doute ne m'est permis. Il m'est impossible d'ignorer que mon ami a une conduite déplorable et une facilité de mœurs tout à fait répréhensible. Je ne l'en aime pas moins, mais j'ai quelques embarras à l'aimer. Aussi serais-je heureuse de lier intimité avec une personne moins voyante que ma pauvre Madeleine. Oui, je serais heureuse d'avoir une amie, mais je ne peux pas compter pour m'en procurer une que sur la bienveillance du hasard. Quelquefois, des circonstances de famille et d'éducation se chargent de nous fournir une compagne de cœur et d'esprit à notre convenance. Ces amitiés-là sont précieuses et ont chance de durer toute la vie. Bon, cette chance-là, je ne l'ai pas encore eue. C'est donc au hasard seul que je m'en dois remettre. C'est à lui de m'offrir cette chose rare et charmante, une amie ou un ami. L'amitié, pour moi, en effet, peut aussi bien exister entre un homme et une femme qu'entre deux femmes ou deux hommes. Les rapports de goût, les échanges d'esprit qui constituent l'amitié n'exigent nullement une identité de sexe. Il me semble que je pourrais très bien éprouver de l'amitié pour un homme sans qu'il s'y mêle à rien de trouble ni d'équivoque. J'en tenterai volontiers l'expérience. J'aurais grand désir de sortir de cette solitude de cœur où j'ai vécu jusqu'à présent, mais je ne souhaite nullement en sortir par l'amour. Peut-être ne penserai-je pas toujours ainsi et connaîtrai-je l'heure où renaîtra en moi le désir d'aimer. J'ajoute même que je la verrai venir sans appréhension. Si le cas se présente, je vous en avertirai, mon cher Jérôme. Ce sera un moyen pour moi de m'éclairer sur mes sentiments. Vous me servirez de pierre de touche. En attendant, je vous dirai que, parmi les visites que je comptais faire, j'ai réservé pour la fin celle que je me réjouissais de rendre à l'excellente Madame Bruvane. C'est la seule dont je prévoyais un vrai plaisir, et je me demande pourquoi je l'ai tant retardée. Il faut vraiment que j'aie été folle de Paris, comme je le fus, pour ne pas être allée, dès mon arrivée, voir cette bonne Madame Bruvane. D'autant plus que cet atermoiement était presque de l'ingratitude. Madame Bruvane m'a toujours témoigné un réel intérêt. Elle aimait sincèrement ma mère. Cependant, durant ma vie américaine, je l'avais bien un peu négligée. Heureusement que Madame Bruvane n'est pas femme à se formaliser. Aussitôt que je lui eus annoncé ma venue, elle m'a répondu de la façon la plus affectueuse et la plus empressée. Elle y a d'autant plus de mérite qu'elle a en ce moment de graves soucis au sujet de son neveu, Antoine Hurtin. À ces mots de soucis, je suis sûr que vous vous imaginez tout autre chose que ce qui est. Vous supposez naturellement qu'il s'agit de soucis d'argent. Quelle sottise a bien pu faire ce gros garçon jovial et fêtard qui passe son temps avec des jockeys et des filles et qui occupe ses nuits à poursuivre dans les cercles et tripots une veine qui sans doute ne lui est pas toujours fidèle. Vous imaginez la tante Bruvane obligée de rapiécer quelques culottes importantes ou de désintéresser quelques créanciers exigeants. Eh bien, vous n'y êtes pas. Si Antoine Hurtin a joué, c'est avec sa santé. Il est tombé assez gravement malade d'une crise de neurasthénie aiguë qui l'a forcé à interrompre brusquement son existence. Cette crise a transformé le vigoureux garçon qu'était Antoine Hurtin en un personnage mélancolique, très frappé de son mal, persuadé qu'il ne pourra jamais reprendre sa vie d'autrefois. Et avec cela, fort difficile à soigner. Cette situation désole Madame Bruvane, mais cela ne l'a pas empêchée de me recevoir avec sa bonté ordinaire. Quant à notre divorce, il l'étonne tout autant que l'avait étonné notre mariage. De même qu'elle ne revenait pas, que vous m'épousassiez sans dot, elle ne peut comprendre que vous ayez consenti à vous séparer d'une aussi gentille personne que moi. Il est vrai qu'elle ne connaît pas Miss Alicia Hardington et qu'elle ne sait pas que je suis davantageusement remplacé. Malgré ces tracas, Madame Bruvane s'est mise à ma disposition pour tout ce qui pourrait faciliter mon installation à Paris et m'a fait ses offres de services les plus aimables en les entremêlant de lamentations sur la santé de son neveu. Ah, s'il n'avait pas mené cette vie absurde, s'il s'était marié tranquillement. J'ai tâché de la remonter, de la raisonner de mon mieux. Je lui ai dit que ses états d'épuisement nerveux étaient assez fréquents chez nos businessmen américains et qu'une bonne saison de plein air en Suisse ou un fortifiant voyage en mer aurait raison aisément de cette dépression physique. Nous en étions là quand quelqu'un est entré dans le salon. Ce nouveau venu était un ami d'Antoine Hurtin, le seul par caprice qu'il consente à voir en ce moment, et qui s'appelle M. Julien Delbray. Oh, il est d'ailleurs fort bien et d'aspect agréable. Il paraît que c'est un garçon très gentil et très intelligent, qui s'y connaît fort bien en bibelots et en meubles, et Madame Bruvane, en me présentant M. Delbray, m'a dit qu'il pourrait m'être très utile dans mes projets d'installation, et elle m'a assuré de sa complaisance. Monsieur Delbray m'en a assuré aussi fort poliment, mais d'un air quelque peu distrait, ce qui fait que je doute un peu, sinon de sa compétence, du moins de son sens pratique. J'ajoute que si Monsieur Delbray s'y connaît en bibelot, il s'y reconnaît moins en visage. J'ai eu en effet l'honneur, un matin du mois dernier, que je déjeunais au restaurant Foyot, d'être assise à une table assez proche de la sienne, mais il ne semble pas m'y avoir remarqué. Tandis que moi, oh, je me souviens parfaitement de lui. Du reste, ma vanité n'est nullement offensée de ce manque de mémoire. Je n'en consulterai pas moins volontiers M. Delbray sur mes futurs achats. Je suivrai même avec plaisir ses conseils, s'ils sont conformes à mon goût. Je vous serre la main, mon cher Jérôme, et demeure votre affectionné, Lord Lérin.